Chers amis, bienvenue à tous. Espèces naturelles, profils causaux et constitutions multiples. C'est avec ce bel intitulé que nous ouvrons donc le séminaire de cette année qui sera consacré à la question des articulations du réel. Question que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder lors de plusieurs séances du groupe d'études en métaphysique et qui se situe aussi, vous l'aurez compris, dans le prolongement des cours que j'ai donnés 2 années de suite, il y a déjà un certain temps, puisque cela nous fait remonter aux années 2012 et 2013, et qui portait sur ce que j'estimais et que j'estime toujours aussi important d'analyser de très près, la métaphysique des espèces naturelles. Pour ouvrir nos travaux cette année, j'ai souhaité entendre mon collègue et ami le professeur Max Kissler, de l'Université de Paris 1 et de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, que je suis vraiment heureuse d'accueillir. Les compétences et publications internationalement reconnues du professeur Kissler seraient trop longues à énumérer et prendraient, pour leur rendre justice, une bonne partie de notre séance. Donc je dirais simplement, pour le lire depuis un certain nombre d'années déjà, avec un intérêt une admiration qui n'ont jamais faibli, il est certainement aujourd'hui l'un des philosophes les plus avertis pour traiter des questions parmi les plus arides, les plus débattues aujourd'hui, mais aussi les plus décisives de la métaphysique et de la philosophie des sciences, et en particulier celles qui tournent autour de la causalité, des lois de la nature, des dispositions, des pouvoirs, des espèces naturelles, et que les problèmes liés à la causalité physique et mentale, à la réduction ou à l'émergence, n'ont aucun secret depuis longtemps pour lui. Je citerai simplement quelques-uns de ses livres, « Causalité et lois de la nature » de 1999, traduit en anglais en 2006, « L'esprit matériel, réduction et émergence 2016, et de multiples directions ou co-directions d'ouvrages, parmi lesquelles, avec Bruno Gnassounou, Cause, pouvoir, disposition en philosophie, Le retour des vertus dormitives 2005, traduit aussi en anglais en 2007. Avec Bruno Gnassounou encore en 2006, Les dispositions en philosophie des sciences, en collaboration avec Anouk Barberousse et Pascal Ludwig, La philosophie des sciences au XXe siècle, en 2010 avec Aurélien Barraud, Patrick Gigère et Jean-Philippe Usan, Multivers, Monde possible de l'astrophysique, de la philosophie et de l'imaginaire, qui a fait l'objet, je crois, en 2020, Max, d'une nouvelle édition, Conversation oui, sur les
univers,
Monde possible de l'astrophysique, de la philosophie et de l'imaginaire, hein, 2020 je crois. Bon. Enfin, j'attire oui, votre attention sur plusieurs directions de numéros de revues très importants, parmi lesquels celui consacré à la causalité, revue philosophie en 2006, celui aussi de la revue Synthèse en 2006, New Perspectives on Reduction and Emergence in Physics, Biology and Psychology, un numéro spécial de la Philosophical Psychology en 2009, Cognition and Neurophysiology, Mechanism, Reduction and Pluralism, et plus récemment, en mai 2020, un nouveau numéro de la revue Synthèse, New Trends in the Metaphysics of Science. Bon, je suis donc aussi impatiente que vous de l'entendre, et sans plus tarder, en le remerciant vivement d'avoir accepté mon invitation, je lui donne donc à présent la parole pour une cinquantaine à soixantaine de minutes, selon ce qu'il jugera nécessaire de faire, après quoi nous aurons donc une discussion de même durée à peu près. Voilà, espèces naturelles, profil causal et constitution multiple, cher Max, c'est à toi.
Merci beaucoup, chère Claudine. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité et de me faire l'honneur de me faire parler pour commencer cette nouvelle série de séminaires. Alors, mon plan aujourd'hui pour vous parler des espèces naturelles est le suivant. D'abord, je vais dire quelques mots sur la distinction désormais traditionnelle que je vous propose de suivre entre deux manières de concevoir la métaphysique descriptive et la métaphysique des sciences. Ensuite, je dirai quelque chose sur la manière de concevoir les propriétés naturelles dans la métaphysique des sciences. Partir de bases causales de disposition. Et ensuite, je parlerai des espèces naturelles, ce qu'on entend en anglais par natural kinds, et je vous montrerai comment on peut les concevoir à partir de leur profil causal. Et pour terminer, je parlerai d'une critique d'une doctrine opposée ou alternative à la conception que je vais vous proposer des espèces naturelles, qu'on appelle le microstructuralisme, et donc je montrerai pourquoi, à mon avis, cette conception n'est pas appropriée. Alors, d'abord, sur la distinction entre deux manières de concevoir la métaphysique, quand on s'interroge sur la question de savoir s'il existe des propriétés naturelles et des espèces naturelles en tant que catégorie métaphysique, et si oui, il y a ces catégories, quelles sont les propriétés et quelles sont les espèces qui existent à l'intérieur de ces catégories? Ça, c'est une première question. Et quand on s'interroge sur la question de savoir ce qui détermine l'identité de ces choses, on peut s'y prendre de deux manières pour répondre, qui correspondent à ces deux manières de concevoir l'objectif de la métaphysique. La première manière de concevoir la tâche, de la métaphysique est celle qui correspond à ce que Peter Strawson appelle la métaphysique descriptive. Là, l'objectif, c'est de rendre explicite la structure d'un concept, par exemple celui d'espèce naturelle, tel qu'il fait partie du sens commun et tel qu'il trouve son expression dans le langage ordinaire. Et donc, ce qu'on fait, c'est analyser la sémantique des termes d'espèce naturelle tels qu'ils font partie des langues naturelles, comme par exemple les termes or, eau et tigre. Et on s'efforce à découvrir comment le locuteur compétent d'une langue naturelle conçoit la signification ou la référence des termes d'espèces naturelles qu'il utilise. Alors, cette métaphysique descriptive est traditionnellement conçue comme une philosophie de fauteuil, dans les termes de Frank Jackson, armchair. Donc, c'est une manière de procéder à l'analyse conceptuelle en partant des intuitions du philosophe lui-même et de ses interlocuteurs, mais on n'est pas obligé de rester à ce niveau des intuitions du philosophe lui-même. On peut naturaliser, comme on dit, les intuitions en question, donc on peut les concevoir, on peut apprendre à les comprendre à la lumière de la science contemporaine, en l'occurrence à la lumière des sciences cognitives et en particulier de la psychologie et de l'anthropologie. Et il y a là des recherches riches et sophistiquées sur la manière dont le sens commun conçoit les espèces naturelles selon ces sciences, mais pour le dire en un mot, ce qu'on trouve, c'est que le sens commun conçoit les espèces naturelles comme des ensembles d'objets qui partagent une essence cachée. Donc, d'une part, les objets qui appartiennent à une espèce appartiennent à cette espèce en vertu d'une essence qu'ils partagent tous, et cette essence, la plupart du temps, normalement, elle est cachée, elle n'est pas apparente. Cette première façon de concevoir la tâche de l'analyse philosophique du concept d'espèce naturelle se distingue d'une seconde conception qui correspond à la métaphysique des sciences. Donc, à partir de maintenant, je ne parlerai plus que de cette seconde conception qui ne vise pas le contenu des concepts naïfs d'espèces naturelles, tels qu'ils font partie du sens commun et tels qu'ils s'expriment dans les langues naturelles. Mais plutôt, on a une tâche plus ambitieuse qui est de découvrir ce que sont les espèces naturelles réellement. Alors, comment on fait pour savoir ce que sont les choses réellement? En réalité, ce qu'on fait, c'est de remplacer l'analyse du sens commun et du langage ordinaire par l'analyse de ce que nous disent les sciences à propos des espèces naturelles. Et alors, en ce qui concerne l'existence et l'identité d'une certaine catégorie d'entités, je vous propose d'utiliser le critère suivant. On s'interroge simplement sur la question de savoir si les entités du genre auquel on s'intéresse jouent un rôle dans une science et plus précisément un rôle indispensable. Donc on fait ce que Stephen French caractérise de la manière suivante. On essaie d'identifier les aspects d'une théorie qui sont censés être responsables du succès de cette théorie. Et donc ça conduit à un critère d'existence relativement simple, un type T d'entité, donc un type de substance, un type d'individu ou un type de propriété existe si une science fait référence à ce type d'entité dans ses lois ou modèles tels qu'ils sont utilisés pour engendrer des explications et des prédictions. Alors, quand on essaye d'appliquer ce critère d'existence d'abord aux propriétés naturelles, on a le cas relativement simple par lequel je commence, qui est de regarder des sciences dans lesquelles on trouve des généralisations nomologiques, donc des énoncés qui représentent les lois de la nature sous forme d'équations. Et dans ces équations, on considère que les symboles qui ne représentent pas des nombres ou des relations logiques ou mathématiques représentent en général des propriétés naturelles. Par exemple, je vais utiliser d'abord ce premier exemple de la propriété de porter la charge électrique élémentaire. Et la raison pour laquelle on a raison de postuler l'existence de cette propriété, c'est qu'il y a une équation en physique, en plus une équation indispensable et fondamentale, que vous voyez là, ça sera l'une des rares équations que je vais vous montrer parce qu'on n'est pas en physique. Donc vous voyez ici l'équation qui dit qui exprime le fait que un objet qui porte une charge électrique élémentaire Q, qui se trouve dans un champ électrique représenté par la lettre E, subit une force représentée par la lettre F. Donc la justification de l'existence d'une propriété comme la propriété d'être chargée électriquement, elle est indépendante de la possibilité de réduire ces propriétés. Dans le cas de la charge électrique, il s'agit sans doute d'une propriété fondamentale. On dit ça, pourquoi on dit que c'est une propriété fondamentale? Parce qu'au moins certaines des lois dans lesquelles figure la charge électrique sont des lois irréductibles. Mais la justification que j'ai montrée tout à l'heure de l'existence des propriétés naturelles, elle est plus générale, elle s'applique tout à fait dans le même sens aussi à des propriétés qui ne sont pas irréductibles, qui sont de plus haut niveau, et je vous donne cet exemple que je ne vais pas beaucoup développer puisque c'est plus compliqué. Les membranes des fibres musculaires sont perméables à certaines molécules, notamment des ions, par exemple les ions potassium, ça c'est le K+. Et donc ces membranes des fibres musculaires, elles ont la propriété d'être perméables à ces ions de potassium. Et donc, pourquoi je crois qu'il existe une propriété des membranes des fibres musculaires d'être perméables aux ions de potassium? C'est parce qu'il y a des équations dans lesquelles apparaît un symbole qui représente cette propriété, donc qui s'appelle G indice K, et ces équations jouent un rôle dans les explications d'une certaine science qui est la biophysique, qui nous explique comment fonctionnent les fibres musculaires. Donc c'est juste pour dire que cette justification de l'existence des propriétés, elle marche aussi bien pour les propriétés de haut niveau qui sont parfaitement réductibles, donc il y a des explications réductrices pourquoi ça marche comme ça, les fibres musculaires, que pour des propriétés plus fondamentales comme la charge électrique. Alors, l'objection qu'on peut faire tout de suite quand on a vu juste une équation, comme tout à l'heure F égale Q multiplié par E, c'est que l'objection consiste à dire qu'on a tort de penser que la présence de ce symbole Q dans l'équation justifie l'existence de la propriété. On a tort parce que, en réalité, ce symbole ne représente que l'abréviation du quotient entre F et E. S'il y a une équation, ça veut dire juste que Q permet d'abréger le quotient entre ces deux grandeurs qui sont F et E. Ça serait l'équivalent de la doctrine behavioriste en philosophie de la psychologie, où on dit on a tort de penser que les prédicats psychologiques font référence à des propriétés psychologiques ou à des espèces naturelles psychologiques. Non, elles ne sont que des abréviations d'un lien entre des stimulations et des comportements. Donc ça serait une objection similaire qu'on pourrait faire de façon beaucoup plus générale de toutes les propriétés théoriques qui sont postulées dans les sciences. Alors la réponse qu'il faut faire à cette objection, et donc la raison pour laquelle, à mon avis, on a raison de postuler que la propriété de porter la charge électrique existe, ce n'est pas seulement une abréviation de deux autres grandeurs, c'est que le symbole Q figure dans de nombreuses lois et pas seulement dans une seule. Et donc c'est à mon avis ça l'argument pour laquelle on a raison de penser que la charge existe. Donc les lois sont nombreuses, je ne vous en montre que trois parce que je ne veux pas vous embêter avec les équations. Juste de ces équations, vous devez juste retenir le fait qu'ils sont plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a trois. Et sinon, ce qui nous intéresse, c'est uniquement que dans chacune de ces lois, nous avons le même symbole, donc nous avons la même représentation de la charge électrique qui a donc plusieurs dispositions. Chacune de ces lois correspond à une disposition que possèdent les choses qui portent une charge électrique, qui ont donc cette propriété. La première loi correspond à la disposition qu'ont tous les objets chargés d'être soumis à la force F quand ils sont dans un champ électrique E. La deuxième équation correspond à la disposition qu'ont tous les objets chargés d'attirer d'autres objets chargés avec Q étoile quand ils sont à distance R. Et la troisième équation correspond à la disposition qu'ont les objets chargés d'être soumis à une autre force qu'on appelle la force de Lorentz quand ils se déplacent à la vitesse V à travers un champ magnétique. Donc peu importe les détails, en tout cas, le constat philosophiquement significatif que je vous propose de tirer de ces observations, c'est que la charge électrique, elle figure dans plusieurs lois et que chaque loi correspond à une disposition que partagent tous les objets qui possèdent la charge électrique. La raison pour laquelle on croit qu'il existe des propriétés naturelles, elle est donnée par un raisonnement qui appartient au type d'un raisonnement qu'on appelle l'inférence à la meilleure explication. Et ce qu'on explique en postulant qu'il y a une propriété naturelle qui est sous-jacent à ces différentes dispositions, ce postulat explique aussi pourquoi les dispositions sont inséparables, pourquoi on a toujours toutes les trois quand on en a une des trois, c'est-à-dire ça permet d'expliquer pourquoi il n'arrive jamais qu'un objet n'a qu'une seule de ses dispositions ou n'a que deux de ses dispositions, elles vont toujours toutes les trois ensemble. Et l'explication, elle consiste à dire que les trois dispositions vont toujours ensemble parce que les dispositions qui correspondent à ces trois lois, elles sont le fruit de la présence de ce qu'on appelle une base causale. C'est un concept qui a été introduit par Pryor, Paget et Jackson en 82. Donc la base causale, c'est défini comme la propriété intrinsèque qu'a un objet qui contribue causalement à provoquer les manifestations. Et donc l'idée de ce raisonnement métaphysique que je vous propose, c'est que on a des raisons de croire qu'il y a une propriété métaphysique unique qui est la charge électrique, parce que l'existence de cette propriété unique permet d'expliquer pourquoi les différentes dispositions vont toujours ensemble, sont inséparables les unes des autres. Donc, il s'agit d'une inférence à la meilleure explication. Et la deuxième, donc, c'est un type de justification qui est le même que le type de justification qu'on a en général quand on introduit des entités dans les théories scientifiques. Donc, on les introduit parce que ça permet d'unifier des explications. Mais il y a une deuxième partie de la justification pour introduire des entités théoriques, ici les propriétés naturelles, c'est que ça permet de découvrir de nouvelles lois. Donc il y a une fécondité potentielle dans l'introduction de ces entités, de ces propriétés naturelles notamment, puisque à un moment donné, on ne connaît en général qu'une partie des lois qui gouvernent une de ces propriétés. Et en principe, il y en a d'autres, et le fait de postuler la propriété rend possible la découverte de nouvelles lois. Donc c'est unification et fécondité, exactement les mêmes raisons qui justifient le postulat d'entité théorique dans les sciences. Les différentes lois et les dispositions qui correspondent à ces lois détermine également l'identité des propriétés. Donc si on dit qu'il y a deux propriétés différentes, ça ne peut venir du fait que ces deux propriétés jouent des rôles différents dans différentes lois. Donc ça conduit au critère d'identité suivant. Une propriété naturelle P a une identité qui est déterminée exclusivement par l'ensemble des lois qui portent sur P et par la position que P occupe dans ces lois. Donc, c'est ce que on peut appeler le profil dispositionnel de la propriété, et c'est une doctrine qui s'appuie sur des travaux, notamment de Sidney Shoemaker et de Hugh Miller, et ça conduit donc à considérer les propriétés naturelles comme des pouvoirs ou powers, ou à les considérer comme des entités qui correspondent à un certain nombre de dispositions. Donc ce sont les propriétés naturelles sont des choses qui correspondent à ce qu'on appelle les dispositions à voies multiples. Je préfère dire exactement que les propriétés naturelles sont des pouvoirs qui correspondent à de nombreuses dispositions. Je vous montre une objection qui a été soulevée contre l'existence de ce genre de disposition à voie multiple ou multitrack par Alexander Bird. Donc Alexander Bird parle de pur et impur au lieu de parler de disposition à voie unique et disposition à voie multiple. Donc les dispositions à voie unique sont caractérisées par un seul conditionnel contrefactuel. Ici vous avez dx et tx conditionnel contrefactuel mx, ça signifie un objet, s'il avait la disposition D et s'il se trouvait dans la condition de déclenchement T, alors il aurait la manifestation M. Là, il y a une seule caractérisation, conditionnel contrefactuel. Et les dispositions multitrack, donc à mon avis, ce qui correspond à toutes les propriétés naturelles, elles sont caractérisées par un certain nombre de, donc plusieurs conditionnels contrefactuels, plusieurs dispositions. Un objet qui a la propriété D, il satisfait pour tout I, donc I c'est un indice, et pour tout nombre I, l'objet satisfait le conditionnel contrefactuel si un objet a la disposition et il se trouve dans une situation qui correspond aux conditions de déclenchement T, TI, alors il va se manifester par MI. L'objection de Bird consiste à dire il n'y a pas besoin de postuler des dispositions à voir multiples, il n'y a pas besoin de postuler des pouvoirs comme je les ai caractérisés, puisque les dispositions fondamentales sont toujours réductibles à des conjonctions de dispositions à voie unique. Donc, les dispositions à voie multiple, elles existent peut-être, mais ce n'est pas fondamental. Elles peuvent être analysées en tant que conjonction de dispositions à voie unique. Et la réponse à cette objection est que une propriété naturelle comme celle de porter la charge électrique n'est pas identique à la conjonction. Pourquoi? Parce qu'elle fournit au contraire une explication unificatrice de cet ensemble de dispositions. Donc ce n'est pas l'ensemble de dispositions, ça unifie l'ensemble de dispositions et ça explique pourquoi l'ensemble est inséparable. Si c'était juste une conjonction, il n'y aurait pas de raison qu'on ne puisse pas avoir juste une partie des termes de la conjonction. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un objet qui n'a qu'une seule des dispositions au lieu d'en avoir toujours toutes les trois? Donc, l'explication va au-delà de la simple conjonction. La deuxième partie de la réponse à cette objection par Alexander Bird, c'est que, à mon avis, il est douteux qu'il existe des dispositions pures. Une disposition pure ou à voie unique, c'est dans le vocabulaire de Bird, ça serait une propriété, ça correspondrait à des propriétés qui ne figurent que dans une seule loi. Mais pour cela, il serait effectivement plausible de dire que ce ne sont que des abréviations. Donc si vraiment Q ne figurait que dans la loi qui le relie à F et E, on pourrait effectivement dire qu'il n'y a pas de raison de croire que Q existe, c'est juste une abréviation. Mais il se trouve que les propriétés naturelles qui sont postulées par les sciences figurent toujours dans plusieurs lois. Alors, maintenant je passe aux espèces naturelles. Vous allez voir que les raisonnements sont tout à fait analogues. La catégorie des espèces naturelles nous vient des substances secondes aristotéliciennes. Et la justification pour croire qu'il existe des espèces naturelles est tout à fait analogue à la justification pour croire qu'il existe des propriétés naturelles. Donc, une espèce naturelle est un ensemble d'objets ou d'échantillons de substances qui se ressemblent à certains égards, qui partagent certaines propriétés naturelles. Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord parlé des propriétés naturelles. Comme exemple des espèces naturelles, je vous propose les électrons. Tout à l'heure, j'ai eu la charge électrique. C'est une des propriétés qui caractérise les électrons. Mais l'électron en tant que tel, c'est une espèce naturelle. Un autre exemple d'espèce naturelle que j'ai déjà mentionné, ce sont les ions potassium. Et un autre exemple encore moins fondamental, ce sont les canaux ioniques, ces pores qui sont dans les membranes des cellules qui permettent aux ions potassium de passer la membrane. Donc ce sont des espèces naturelles plus ou moins fondamentales, les électrons les plus fondamentales et les canaux ioniques dans les membranes moins fondamentales. Alors, pour ce qui concerne les espèces naturelles fondamentales, comme les électrons, il y a un certain nombre de propriétés naturelles qui sont parfaitement partagées. Donc, pour ces catégories, pour ces espèces naturelles fondamentales, toutes les propriétés sont partagées et il y a plusieurs manières de concevoir ces ensembles de propriétés. Soit on considère qu'il s'agit juste d'ensembles de propriétés qui vont ensemble et on parle d'un cluster, comme dans la théorie de Slater, soit on pense qu'il vaut mieux et que ça correspond plus à la réalité de considérer que ce sont en général pas simplement des clusters, mais ce sont plutôt des clusters structurés et ça correspond à la théorie qui a été récemment avancée par Olivier Lemaire. Quand on envisage des espèces naturelles non fondamentales, la ressemblance n'est que partielle. Alors, par exemple, les ions potassium, dont j'ai déjà parlé, il s'agit là d'une espèce naturelle non fondamentale et les objets qui appartiennent à cette espèce naturelle se ressemblent, mais pas complètement, puisque dans cette espèce naturelle, il y a des isotopes différents qui sont des ions qui partagent des propriétés très importantes. C'est pour ça qu'elles appartiennent à la même espèce. Elles partagent le nombre de protons et la configuration électrique, mais il y a d'autres propriétés qu'elles ne partagent pas. C'est le nombre de neutrons, et du coup, on parle de d'isotopes 39 et 34. Voilà, donc ça, c'est une espèce non fondamentale. La ressemblance n'est que partielle. Alors, le postulat d'une espèce naturelle sous-jacente à cet ensemble de propriétés qui forment le cluster, comme disent la Terre, et donc le postulat de cette catégorie d'espèces naturelles est tout à fait analogue au postulat de propriétés naturelles, puisque le postulat d'espèces naturelles permet d'expliquer pourquoi les propriétés vont ensemble. Donc, tout à l'heure, on a dit on postule les propriétés pour expliquer pourquoi les dispositions vont ensemble, et maintenant on dit on postule l'espèce naturelle pour expliquer pourquoi les propriétés vont toujours ensemble. Pourquoi dans les électrons, la charge, la masse et le spin, ça va toujours ensemble. Réponse, il y a une espèce naturelle sous-jacente qui explique pourquoi les trois sont inséparables. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, en tout cas en ce qui concerne les espèces naturelles biochimiques sur lesquelles je vais maintenant réfléchir, réduire l'espèce directement à un rôle fonctionnel? Et en un sens, je vais retenir cette idée que les espèces naturelles, effectivement, ils peuvent être caractérisés et leur identité est déterminée par un rôle fonctionnel, mais la relation entre l'espèce et le rôle n'est pas simple. Donc, on ne peut pas simplement identifier une espèce avec un rôle, c'est ça que je vais maintenant expliquer. La relation est complexe parce qu'en général, une espèce naturelle peut avoir plusieurs fonctions et différentes espèces naturelles peuvent avoir la même fonction. Donc, je vous montre avec un exemple pourquoi la relation entre espèces et fonctions n'est pas une à une. Quand on regarde les protéines qui sont des espèces naturelles importantes en biologie, on constate qu'elles sont en général multitâches, comme on dit, elles ont plusieurs fonctions. Alors, les philosophes de la biologie ont eu l'idée d'utiliser cette appellation sympa de protéines claires de lune, en utilisant la métaphore de l'emploi secondaire qu'on fait au clair de lune pendant la nuit. Donc, on a un emploi principal de jour et un autre emploi de nuit. Donc, c'est ça qui est censé nous servir de métaphore pour ces protéines qui occupent plusieurs fonctions. Et c'est tout à fait typique pour les protéines. Donc, un exemple, les protéines qui, dans le cristallin de l'œil des vertébrés, donc dans nos yeux en particulier, donne à nos yeux, au cristallin de nos yeux, sa transparence et ses propriétés réfractives qui nous permettent de voir. Ces mêmes protéines jouent d'autres fonctions. Donc, une de ces autres fonctions de ces mêmes protéines, c'est de servir de protéines de choc thermique. Donc, ça permet de protéger les cellules de températures élevées. Et une autre fonction encore, c'est de servir comme enzyme, donc ça permet de faciliter ou accélérer d'autres réactions chimiques. Donc on ne peut pas simplement identifier une espèce naturelle avec une fonction, mais pourtant, je vous propose quand même de concevoir les espèces naturelles en termes de fonctions, juste d'une manière un peu plus sophistiquée. L'identité d'une espèce naturelle est déterminée par un ensemble de dispositions dont une partie correspond à des fonctions quand il s'agit de propriétés biologiques. Et donc, les espèces naturelles aussi sont des pouvoirs, sont des powers qui sont postulés par la métaphysique pour permettre une explication unificatrice, celle de l'inséparabilité d'un ensemble de propriétés. Et un ensemble de propriétés, ça va ensemble avec un ensemble, ça conduit à un ensemble de dispositions, dont certaines, pour ce qui concerne les espèces naturelles qui jouent un rôle en biologie, certaines correspondent à des fonctions. Donc seulement une partie de ces dispositions est manifeste à un moment donné, et seulement une partie de celle qui est manifestée est connue, et chacune des fonctions correspond à une des dispositions. Donc il y a en général d'autres dispositions, et donc une partie de ces dispositions correspond à des fonctions en biologie. Et en biologie, il se trouve que le nombre de fonctions n'est pas fixe, puisque au cours de la sélection naturelle, il arrive souvent que les protéines acquièrent de nouvelles fonctions et perdent d'autres fonctions. Donc ça nous oblige à les concevoir indépendamment de chacune de ces fonctions. Donc il faut les concevoir comme quelque chose qui a certaines fonctions et qui est caractérisé par certaines fonctions, mais qui n'est pas épuisé par telle ou telle fonction qui est occupée à un moment donné, puisque l'entité peut persister tout en changeant de fonction. La deuxième raison pour ne pas identifier les espèces biochimiques à des fonctions, c'est que la même fonction peut être multiréalisée par différentes espèces naturelles. Donc tout à l'heure, on a dit une même espèce naturelle peut avoir plusieurs fonctions, et maintenant on dit une même fonction peut être occupée par plusieurs espèces naturelles, ou un rôle peut être joué par plusieurs espèces naturelles. Ça arrive quand on a affaire à des situations d'évolution convergente. Donc, des exemples sont les ailes qui ont été trouvées plusieurs fois par l'évolution, par la sélection naturelle, ou qui sont apparues plusieurs fois au cours de l'évolution chez les insectes, les oiseaux et les mammifères. Et c'est la même chose pour les yeux qui sont apparus plusieurs fois, et à un niveau plus, à un niveau inférieur de composition, les protéines qui dans les yeux sont responsables de l'absorption de la lumière dans la rétine, qu'on appelle les opsines, ce sont des protéines qui ont été aussi, qui ont fait l'objet de plusieurs apparitions au cours de l'évolution, et donc il y a des opsines de différents types qui sont apparues à différents moments au cours de l'évolution. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je peux répondre à une objection qui est tout à fait analogue à celle que nous avons vue tout à l'heure, que Alexander Bird oppose au postulat de propriétés qui sont des pouvoirs à disposition multiples. Donc ici, on a une objection tout à fait analogue contre le postulat de l'existence des espèces naturelles, qui a été aussi avancé par le même Bird et par David Armstrong. Ici, je cite Emma Tobin, qui a aussi soulevé cette objection contre le postulat des espèces naturelles en disant « Les espèces naturelles sont une addition ontologique superflue. Une ontologie des propriétés seule suffit pour déterminer nos classifications naturelles. Les espèces naturelles ne contribuent, selon cette objection, rien aux explications scientifiques, outre un ensemble de propriétés et les lois qui assurent leur interdépendance. » Donc, exactement de manière analogue de la manière où Bird tout à l'heure disait « on n'a pas besoin de postuler des pouvoirs à disposition multiples, ce sont que des conjonctions. » Ici, on dit « on n'a pas besoin de postuler des espèces naturelles, ce ne sont que des ensembles de propriétés. Par exemple, pas besoin de postuler l'existence des ions potassium. Il suffit d'analyser les ions potassium en un certain nombre de propriétés naturelles, avoir un noyau à 19 protons, avoir une structure électronique à 18 électrons. Et puis, avec cette réduction, en principe, on peut éliminer les occurrences du terme ion potassium, donc K+, dans toutes les explications, dans les modèles scientifiques où ça apparaît, c'est en principe éliminable. Donc, nous, les philosophes, on aurait tort de croire que là, il y a besoin de postuler quelque chose en plus des protons et des électrons. Réponse à l'objection, l'existence des ions potassium est justifiée par son rôle dans l'explication. C'est une question indépendante de cette présence dans les explications scientifiques, de savoir si si ces explications sont réductibles, parfois oui, parfois non, mais même quand effectivement on peut réduire une certaine espèce naturelle en montrant que les objets qui appartiennent à cette espèce sont composés en termes d'espèces plus simples, cette réduction est en réalité un argument pour l'existence des objets qui appartiennent à cette espèce. Donc, comprendre de quoi est composé un ion potassium, ça nous donne des raisons de croire qu'il existe plutôt que de nous donner des raisons de croire qu'il n'existe pas. Alors, on peut certes expliquer de manière mécaniste des espèces naturelles complexes, mais on ne peut pas, ça ne permet pas de donner des raisons pour se passer complètement de la catégorie des espèces naturelles, puisque on ne peut réduire de cette façon que les espèces de niveau supérieur, qui appartiennent donc à des objets complexes. Des espèces naturelles simples ou fondamentales ne peuvent pas être expliquées de façon mécaniste, puisque dans un objet simple, comme un électron, il n'y a pas de partie. Et donc, on ne peut pas expliquer l'interdépendance ou l'inséparabilité des propriétés de l'électron à partir des parties de l'électron, parce qu'il n'a pas de propriété, il n'a pas de partie. Et donc, troisième réponse, qui est un peu la synthèse des deux autres réponses, c'est que ou bien les espèces naturelles sont fondamentales, ou bien elles ne sont pas fondamentales, mais alors elles ont des espèces naturelles fondamentales dans la base de réduction. Et dans tous les cas, la catégorie métaphysique des espèces naturelles reste indispensable. Donc, dans le cas des espèces naturelles qui sont réductibles, comme les ions potassium, on trouve d'autres espèces naturelles dans la base de réduction. Et on n'a pas de raison d'éliminer la catégorie d'espèces naturelles en tant que telle. La dernière partie de mon exposé porte sur une thèse rivale à cette conception des espèces naturelles que j'appelle une conception fonctionnaliste, où donc l'identité des espèces naturelles est déterminée par un profil dispositionnel, donc par un certain ensemble de dispositions. Et la thèse alternative, c'est le microstructuralisme. Ça serait une théorie plus simple que nous voyons ici exprimée par Robin Hendry en ce qui concerne les espèces naturelles chimiques. Donc, selon le microstructuralisme, le fait d'appartenir à une espèce est simplement déterminé par une propriété microstructurelle. Et Robin Hendry dit que cette thèse est plausible au moins pour les éléments chimiques et aussi pour certaines substances chimiques, comme par exemple pour l'eau. Donc la thèse, ça consiste à dire une espèce naturelle. Nous, on a dit jusqu'à maintenant que l'espèce naturelle est caractérisée par le profil causal. Donc nous, on a dit que c'est quelque chose qui permet d'expliquer de façon unificatrice l'ensemble de ces dispositions et des propriétés qui correspondent à ces dispositions. Mais le microstructuralisme dit ce qui est sous-jacent et donc ce qui détermine le profil causal de l'espèce naturelle, c'est la structure microscopique. Donc, on peut plus simplement dire ce que c'est une espèce naturelle. C'est une caractérisation scientifique. Donc, on n'a pas besoin d'un postulat métaphysique. On peut simplement dire c'est la structure microscopique. C'est l'ensemble des composants atomiques et leur configuration. Donc, tout ça pour les espèces naturelles de la chimie et de la biochimie. Alors, le microstructuralisme peut être caractérisé par le biconditionnel suivant que je trouve dans un article de Thomas Tacco qui dit nécessairement un échantillon d'une substance chimique A appartient à la même substance chimique que l'échantillon B si et seulement si A et B ont la même composition microstructurelle. Et maintenant, je vous sépare ce biconditionnel, donc if and only if, si et seulement si, je sépare en deux parties Le biconditionnel, il a deux composantes. La première direction dit si A et B ont la même composition, donc si A et B sont des échantillons qui ont la même composition microstructurelle, alors ces échantillons appartiennent à la même espèce. Ça, apparemment, je pense que c'est inévitable, c'est une conséquence du physicalisme et de la survenance des propriétés des objets complexes par rapport aux propriétés de leurs composants. Et donc, par exemple, dans les protéines, c'est indéniable que ce qui est sous-jacent aux dispositions, au profil causal, c'est la structure tertiaire, c'est la configuration de la protéine dans l'espace en trois dimensions. Et ça, c'est déterminé par la structure primaire qui est dans les protéines, la séquence d'acides aminés. Donc, il y a une structure microscopique qui est la composition atomique. Elle détermine la microstructure qui est la structure tertiaire et la structure tertiaire détermine le profil causal. Donc ça, c'est indéniable. Ça serait une mauvaise objection à cette première direction du biconditionnel de dire que les isomères posent un problème. Les isomères, on pourrait dire, ce sont des molécules qui ont les mêmes composantes et pourtant ce sont des molécules différentes. On pourrait dire, non, ça transgresse ou ça contredit cette première partie du biconditionnel qui dit même structure, même molécule. Ça serait une erreur. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que les isomères ont certes les mêmes composantes. Donc ici, pour l'exemple que j'ai donné, butane, isobutane, on a la même formule chimique à droite. Il y a 4 atomes carbone et 10 atomes hydrogène, mais ce n'est pas la même structure. Et donc, on a ces représentations de la structure en deux dimensions qui montrent qu'il y a une différence dans les liaisons entre les différents atomes. Donc, même composante, mais structure différente. Et donc, pour comprendre que les isomères ne contredisent pas la première direction de la thèse microstructurelle, il suffit de tenir compte de la structure et donc il est toujours correct de dire si deux molécules ou deux types de substances ont la même structure, donc même composante et même liaison, alors il s'agit de la même molécule. Donc ce n'est pas un contre-exemple à cette première direction du biconditionnel. Mais ce qui est faux, et c'est la raison pour laquelle je pense que le microstructuralisme est incorrect, c'est que l'autre direction du biconditionnel est faux. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de relation une à une entre l'espèce naturelle qui correspond au profil causal et la microstructure, qui correspond à l'ensemble des composants plus leur liaison. Donc, il n'y a pas de relation une à une. Et il est faux de dire, donc ça, c'est l'autre direction du biconditionnel, il est faux de dire que si A et B appartiennent à la même substance, sont des échantillons de la même espèce naturelle, alors ils ont la même microstructure. Non. A et B peuvent appartenir à la même espèce naturelle chimique et pourtant avoir des microstructures différentes. Donc, une même espèce naturelle qui est caractérisée par un unique profil causal peut être déterminée par différentes microstructures. Bon, c'est pour cette raison que la thèse microstructuraliste est fausse. Et cela correspond à ce que Carl Gellert a appelé la multiconstituabilité, qui est une sorte de multiréalisabilité. Donc, le même type de molécule en tant que tout, dont l'identité est déterminée par un profil fonctionnel. Donc, pour les protéines, ça correspond à la structure tertiaire et quaternaire, peut être le fruit ou peut être déterminé par différentes microstructures, donc différentes structures au niveau microscopique et pour ce qui concerne les protéines par différentes structures primaires. Mon exemple, et c'est la dernière diapositive, mon exemple c'est l'hémoglobine qui est donc une de ces molécules multiconstituées, il y a plusieurs structures microscopiques qui correspondent à la même espèce naturelle qui est l'hémoglobine. Comment est-ce possible? C'est possible parce que seulement une partie de la structure microscopique qui est très riche, très complexe, détermine le profil fonctionnel de l'espèce naturelle hémoglobine. Dans cette très longue chaîne d'acides aminés, il n'y en a que 9 qui sont stratégiques, qui sont conservés, comme disent les biologistes, ce sont des résidus hautement conservés, donc toutes les hémoglobines, elles s'appellent toutes hémoglobines, elles appartiennent toutes à cette même espèce naturelle parce qu'elles ont le même profil fonctionnel, le même profil causal, ce profil causal est déterminé par une partie seulement de la structure microscopique sous-jacente, par ces 9 acides aminés qui se trouvent à des positions stratégiques pour déterminer la structure dans l'espace. Et partout ailleurs, il y a des variations, donc dans l'évolution, il y a différentes protéines qui ont été sélectionnées pour jouer ce rôle d'hémoglobine, donc ce sont des hémoglobines, et pourtant elles ont des structures primaires différentes. Voilà, donc en conclusion, le critère d'existence des propriétés naturelles et le rôle qu'occupent ces propriétés naturelles dans les lois de la nature, pour les espèces naturelles, la raison de postuler leur existence, c'est qu'ils jouent un rôle indispensable dans les explications scientifiques. L'identité des propriétés naturelles et des espèces naturelles est déterminée par ces lois et par les dispositions qui correspondent à ces lois, donc par un profil causal. En ce qui concerne les espèces naturelles biochimiques, certaines de ces dispositions correspondent à des fonctions. Et donc, le postulat des propriétés naturelles et des espèces naturelles, c'est un postulat théorique, philosophique, métaphysique, qui nous permet d'expliquer pourquoi les dispositions d'abord pour les propriétés et puis l'inséparabilité des propriétés pour le cas des espèces naturelles. J'ai perdu le fil. Pourquoi ces dispositions et ces propriétés viennent toujours ensemble, sont inséparables les unes des autres. Et donc j'ai terminé avec une critique du microstructuralisme où j'ai conclu qu'il est correct de dire que si deux échantillons de substances partagent la même microstructure, alors ces deux échantillons appartiennent à la même espèce naturelle. Donc dans ce sens-là, c'est correct, c'est la survenance, c'est le physicalisme. Mais c'est incorrect de dire dans l'autre direction que si deux types de substances, deux échantillons appartiennent à la même, si deux échantillons appartiennent à la même espèce naturelle, il faut qu'ils partagent la même microstructure. Non, deux échantillons d'hémoglobine peuvent bien appartenir à cette même espèce naturelle d'hémoglobine et pourtant avoir des microstructures différentes puisque ces échantillons peuvent être constitués différemment. Et en général, quand c'est le cas, on parle d'espèces naturelles multiconstituées. Et j'ai terminé cet exposé, une version antérieure de ce que j'ai dit aujourd'hui a été publiée en français dans la revue Lato Sensu. Donc vous trouvez le texte en ligne sur le site de la revue à l'Université de Louvain et en anglais dans la revue Metaphysica. Et si vous voulez savoir comment je pense qu'on peut appliquer ces considérations aux espèces naturelles et aux propriétés naturelles psychologiques ou cognitives, j'ai essayé de le dire dans ce livre que Claudine a eu la gentillesse de mentionner tout à l'heure sur l'esprit matériel. Je vous remercie de votre attention.